Salut à tous, pour démarrer cette année 2025, j'ai invité Léo qui bosse avec moi sur DataScout et on s'est fait une petite tier list des transferts les plus chers de 2024. On les a catégorisés selon si on considère que c'est des bons ou des mauvais transferts et je vous laisse découvrir tout ça. Allez, let's go! Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. Alors le fonctionnement, il va être très simple. On a 20 joueurs qu'on doit juger, donc les 20 transferts les plus chers de l'année 2024. Bon, j'ai mis Mbappé dans la liste, même s'il est parti libre, je pense qu'en termes de prime à la signature, on est peut-être sur le transfert le plus cher de 2024. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 5 catégories. Donc, on a 2 catégories où on va pouvoir mettre qu'un seul joueur. C'est la fameuse catégorie meilleur transfert et pire transfert. Donc, dans ces catégories-là, un seul joueur dans ces catégories-là. Et ensuite, on va avoir la catégorie satisfaction. Donc, les joueurs qui nous ont plutôt satisfaits depuis leur arrivée. La catégorie un peu neutre, on attend de voir sur les joueurs sur lesquels peut-être qui n'ont pas beaucoup joué ou alors qui ont été un peu neutres. Sur lesquels il est vraiment difficile d'avoir un avis arrêté. Et enfin, la catégorie déception pour les joueurs qui nous ont un peu déçus depuis leur arrivée dans leur club. Alors, à prendre en compte, on va bien évidemment juger le rapport qualité-prix. Un joueur qui a été acheté peut-être 40 millions, on n'aura pas un jugement aussi sévère qu'un joueur qui a potentiellement été acheté 80 millions. Voilà, dans cette catégorie, dans cette catégorisation des joueurs, il y a forcément le rapport qualité-prix qui est important à prendre en compte. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le premier joueur. Est-ce que tu es chaud, Léo?
Vas-y, je suis chaud.
Eh ben allez, let's go. Le premier joueur de notre liste, c'est Ricardo Calafiori, transféré de Bologne à Arsenal pour 45 millions d'euros cet été. Allez, je te laisse commencer, Léo, honneur à toi. Dans quelle catégorie tu rangerais Ricardo Calafiori?
Alors, Ricardo Calafiori, c'est un joueur moi, que j'apprécie beaucoup de base. Avec l'Italie, il a fait de très belles choses, vraiment. Et vraiment, dans son club précédent à Bologne, c'est un joueur qui clairement pouvait passer au niveau supérieur. Maintenant, dans ce collectif d'Arsenal, il y a beaucoup de choses à faire pour s'adapter au niveau, notamment défensivement. Moi, je trouve que Calafiori, il peut faire un petit peu mieux défensivement. Par contre, offensivement, forcément, il n'y a pas beaucoup de problèmes. On a vu un super but de Calafiori en début de saison. Mais voilà, on sait qu'à Arsenal, il y a des ailiers qui sont très virevoltants, des joueurs comme Saka ou Martinelli. Et il doit forcément compenser ce déficit défensif potentiellement de ses ailiers. Et il manque aussi un petit peu de réussite actuellement. Moi, pour moi, c'est un joueur qui m'a pas déçu dans le sens où voilà, je crois beaucoup en lui. Il m'a pas satisfait non plus. Je trouve qu'il est pas, il s'est pas imposé non plus comme un indiscutable où on se dit ok, il a été exceptionnel vraiment. C'est une plus-value fabuleuse. Maintenant, le montant de transfert pour un latéral est pas non plus déconnant. Moi, je dirais qu'on attend un peu de voir comment ça va se développer. Je pense qu'il a vraiment toutes les qualités pour s'imposer dans ce collectif de Mikel Arteta. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi.
Ouais, moi je l'ai classé aussi dans on attend de voir pour une raison, c'est qu'il a quand même été pas mal blessé, il a eu un problème de mollet, ouais. Deux blessures au genou qui l'ont un peu handicapé niveau temps de jeu, il a pas tant joué que ça encore avec Arsenal. Moi, je suis peut-être un peu déçu de la destination. J'avoue que vu la saison qu'il avait fait à Bologne, j'aurais bien aimé le voir aller dans une équipe où il serait titulaire plutôt dans l'axe de la défense. Là, j'avoue qu'à Arsenal avec Gabriel et Saliba, j'aurais préféré qu'il soit titulaire dans une défense centrale, parce que je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise quand même en défense centrale qu'en tant que latéral gauche. Mais oui, sur le début de saison, c'est difficile de le mettre autrement que dans on attend de voir, en espérant qu'il se blesse un peu moins sur la deuxième partie de saison et qu'il soit un peu plus utilisé par Mikel Arteta. Donc on classe dans on attend de voir, on est d'accord?
Allez, c'est parti.
Allez, le premier nom dans on attend de voir. On enchaîne avec Mathis De Ligt, le défenseur de Manchester United, en provenance du Bayern Munich cet été pour 45 millions d'euros lui aussi. Allez, je prends la main pour De Ligt. De toute façon, je pense qu'on va être d'accord tous les deux de le classer dans déception. Parce que c'est assez décevant à Manchester. Bah, c'est en adéquation avec le niveau de Manchester sur ce début de saison. Mais en plus, je pense que c'était un recrutement vraiment estampillé Erik Ten Hag. Maintenant que Ten Hag est parti, je pense que si Ten Hag n'était pas à Manchester United, je suis pas sûr qu'il serait allé chercher Mathis De Ligt cet été. Donc ouais, c'est côté déception. En plus, quand tu vois le niveau affiché par le Bayern Munich maintenant qu'il est parti avec Kimmich et Upamecano qui ont vraiment trouvé leur rythme, ouais, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop ce que va en faire Amorim maintenant qu'il est là. Est-ce qu'il va vraiment l'utiliser ou est-ce que c'est un joueur qui peut limite repartir, peut-être pas cet hiver, mais l'été prochain dans une autre équipe parce qu'il sera plus désiré. Je suis assez sceptique sur l'avenir de Ligt à Manchester. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Bah moi, De Ligt, malheureusement, c'est un joueur qui, depuis ses grandes années à l'Ajax, déçoit constamment. Hein. À la Juve, c'était compliqué. Après, il allait au Bayern. Et comme tu l'as dit, maintenant, avec Kim Min-jae et Upamecano, le Bayern semble avoir vraiment trouvé une stabilité défensive. Ils ont encaissé très peu de buts récemment. Et c'est ça coïncide avec le départ de Matisse Delire, qui pour le coup avec Manchester United effectivement est en difficulté. Et tu l'as très bien dit. Moi, j'en attendais beaucoup plus parce que voilà, il était avec Erik ten Hag et pour le coup, on se disait qu'il allait être mis dans de très bonnes dispositions, ce qui n'a pas été trop le cas. Après, pour compenser un petit peu cette critique aussi, moi je trouve que c'est un joueur qui manque de stabilité. On le sent clairement, qui manque de confiance dans toutes ses interventions. Je pense que c'est aussi dû avec le fait qu'il a joué dans des championnats différents où on lui fait pas toujours confiance, où le contexte est un petit peu difficile avec Ten Hag. Là, c'était très difficile. Maintenant, avec Amorim, à voir comment il se comporte. Je pense qu'on lui en demande trop, que c'est pas un joueur de classe mondiale comme on aurait pu l'attendre, et qu'il
Ouais,
faut
je pense aussi, ouais.
le remettre dans sa catégorie, qui est peut-être un bon défenseur central, mais qui jouera jamais dans un très grand club, ou en
Mais
tout cas qui sera jamais indiscutable.
je pense qu'il va reculer dans la hiérarchie, soit Amorim. On en parlera tout à l'heure avec Lenny Yoro, mais là, il n'a pas joué les deux derniers matchs contre Bournemouth et contre Wolverhampton. Je pense qu'il va finir sur le banc avec Amorim. Je serais même pas étonné de ça. Hein.
Bah, je pense que le projet, en tout cas, oui, effectivement, on en reparlera plus tard, se construit sur d'autres joueurs plutôt que sur lui, qui va
Ouais.
peut-être effectivement repartir. Et puis pour le coup, il a quand même coûté assez cher malgré tout. Donc à voir si Manchester United souhaite un petit peu récupérer sa mise ou non. Voilà, donc déception effectivement
On va pas le mettre dans
pour
pire
Delier.
transfert parce qu'on va avoir dans la liste qu'il y a sûrement bien pire que ça, mais c'est clairement une déception, on est d'accord là-dessus. Le prochain nom, c'est Jorginho Rutter. Et oui, l'un des 20 transferts les plus chers de 2024, c'est un joueur qui passe de la Championship à la Premier League. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même un monde différent, l'Angleterre, puisqu'il a été recruté pour 46,7 millions d'euros de Leeds à Brighton. Je te laisse commencer pour Rutter. Allez, on fait 1 sur 2. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, vas-y, on peut faire ça. Clairement, Rutter, moi, je suis assez satisfait de son arrivée à Brighton quand même. Je trouve que c'est déjà une bonne destination pour lui. On sait que c'est un club qui travaille très bien ces dernières années, même si là, forcément, il y a eu un changement avec un nouveau staff, puisque De Zerbi est maintenant à l'OM. Il sort d'une très bonne saison à Leeds, là où, quand il est arrivé en Première Ligue, c'était un petit peu difficile l'adaptation par
Ouais.
rapport au championnat allemand. Hein, il était à Hoffenheim avant, et c'est vrai que il avait un petit peu souffert. En Championship, il a pris clairement en épaisseur, que ce soit physique, mais aussi techniquement. Voilà, il est beaucoup plus en confiance. Je trouve que c'est un joueur puissant, rapide et qui joue avec ses qualités dans ce collectif-là. Et c'est un joueur qui défend aussi beaucoup. Rutter, il n'a pas peur de potentiellement redescendre et voilà, sacrifier sur certaines phases. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant à noter pour lui, c'est que c'est un joueur qui est quand même très polyvalent. On peut le faire
Ouais,
jouer
il peut jouer
ailier
plusieurs
droit, on
postes.
peut le
Ouais.
faire jouer en buteur, on peut le faire jouer en deuxième attaquant aussi. Voilà, clairement, Rutter, c'est super intéressant. Pour moi, c'est plutôt une satisfaction. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors moi je l'ai mis dans on attend de voir, mais je suis pas
Ok.
fermé à l'idée de le mettre dans satisfaction. Pourquoi je l'ai mis dans on attend de voir? Parce que je trouve qu'on n'en a pas encore vu assez de sa part, et c'est surtout les dernières semaines où je le trouve un peu neutre. Tu vois, je regarde un peu les stats, j'ai les stats sous les yeux. Au final, il a mis deux buts contre Chelsea et Tottenham en septembre-octobre, et deux passes décisives contre Newcastle et Wolverhampton en octobre. Mais depuis le 26 octobre, il n'y a pas une seule action décisive, et ça coïncide un peu avec le coup de mou de Brighton, qui a quand même pas gagné un
Oui,
match en
c'est
championnat
ça.
depuis Bournemouth en fin novembre. Donc ça fait quand même 6 matchs de suite que Brighton a pas gagné de match. Quand on tourne cette vidéo, là, ils vont jouer Villa aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais il y a un petit coup de mou et il a encore du mal à peser sur l'effectif de Brighton. Il a quand même été recruté assez cher. On parle quand même de 46,7 millions d'euros pour un joueur comme lui. Donc j'en attendrais un peu plus de lui, tu vois. Moi je l'aurais mis dans satisfaction s'il avait été un peu plus décisif et qu'il avait un peu plus pesé sur la saison de Brighton jusque-là.
Je trouve, ouais, je comprends tout à fait ce que tu me dis. Déjà, je trouve que c'est un meilleur passeur que buteur. Après, ça, c'est mon
Oui,
avis
oui.
personnel. Ouais, moi, je l'aurais mis en satisfaction parce que je sens que ça va bien se passer. Enfin, j'ai cette impression-là qu'il va faire les choses pour aller dans le bon sens. Clairement, quand on regarde ses statistiques défensivement, moi, je trouve qu'en fait, dans le jeu et dans son placement, il aide son équipe. Et effectivement, du coup, ça va être le genre de joueur. Je suis pas certain que Rutter, ça soit le genre de joueur à la Mo Salah, qui va être peut-être le meilleur joueur de ton équipe, qui va vraiment te porter énormément. Mais par contre, si ton collectif suit, c'est un joueur qui va t'amener très loin parce qu'il va toujours être dans le bon sens et qui va te faire les bonnes passes potentiellement pour les joueurs de ton équipe. Voilà, je peux comprendre. Ouais, tu veux
Non
le
mais
mettre
on
où
peut le
dans
mettre
ta
dans
catégorie?
satisfaction, on peut mettre à son crédit que Brighton, collectivement, c'est pas non plus le contexte le plus favorable sous Hurtzeler. Ça a quand même un peu de mal à prendre la sauce à Brighton. Donc on peut le mettre dans satisfaction parce qu'il a quand même été 4 fois décisif. C'est une première demi-saison à Brighton. On peut le mettre dans satisfaction, ça me va. Allez, on le cale dans
Ok.
satisfaction. On enchaîne avec Maximilian Kilman, le défenseur anglais de West Ham, qui a été recruté quand même pour 47,5 millions d'euros en provenance de Wolverhampton. Bon, alors je commence. Moi, Kilman, je l'ai
Vas-y.
mis dans déception. Je sais que c'est un joueur qui est pas trop mal apprécié, mais moi je suis obligé de le mettre dans déception parce que je trouve qu'il est affreusement surcoté. Je peux pas m'enlever de la tête que s'il était pas anglais, il vaudrait clairement pas ce prix, il serait pas titulaire à West Ham. Et en plus, quand t'es défenseur central d'une équipe comme West Ham qui prend complètement l'eau en première ligue, qui prend régulièrement des valises, je peux pas le placer ailleurs que dans déception, ce mec-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, si tu l'aurais mis dans déception aussi, mais en fait, c'est même pas que je suis déçu, en fait, c'est que je m'attendais à rien avec Kilman.
Ouais, c'est ça, c'est un joueur, c'est vrai que nous, de notre prisme, c'est un joueur dont on peut peut-être moins attendre de choses, effectivement. Il arrive à West Ham pour un montant qui est quand même assez conséquent pour un défenseur central,
Ah ouais.
effectivement, et ça pèse dans la balance. Après, moi, j'ai pas l'impression que ce soit le pire joueur de
Non,
West Ham.
clairement
West
pas.
Ham
Non,
est
non, clairement pas.
clairement en grosse galère. Moi, de Kilman, je me souviens un super match face à Newcastle, où j'ai noté, il termine avec 14 interceptions. C'est un joueur qui, je pense, peut vraiment s'imposer comme la pierre angulaire de West Ham. Mais effectivement, là, c'est trop compliqué. Et moi, je trouve qu'aussi au duel, bah, une fois lancé, franchement, il est capable de se faire fumer. On a vu ça contre Liverpool, on a vu ça contre Arsenal. C'est vrai que c'est pas un joueur qui va réussir à te redresser la barre lorsque le bateau est en train de chavirer.
Ouais, puis tu vois, on parle pas d'un mec de 22-23 ans, il a quand même déjà 27 ans, Kilman. Donc quand West Ham met 47,5 millions d'euros sur lui, enfin ils le revendront jamais avec du bénéfice. S'il doit repartir un jour, je pense pas qu'un gros club anglais ira sur son profil, donc tu vas forcément le vendre à perte, parce que personne sera capable de mettre 50 millions d'euros sur un Kilman. Donc c'est en fait je le mets dans déception par rapport au rapport qualité-prix. Tu vois, Kilman,
Complètement.
tu me dis West Ham, il le recrute 25-30 millions. Je pense que ça
C'est
va
pas un
dans
mauvais
on attend
joueur.
de voir, peut-être dans un collectif plus huilé où ça fonctionne mieux, pourquoi pas, mais là 47,5 millions pour un joueur comme ça, je trouve que c'est surpayé, quoi.
Je pense que malheureusement en Angleterre, on a eu l'exemple Van
C'est le problème.
Dijk qui
Mais oui.
clairement autorise ce genre de transfert, alors qu'effectivement, c'est pas non plus la première fois qu'on voit un central arriver dans une équipe et un petit peu décevoir parce que le montant il est colossal. Et ça arrive qu'en Angleterre, vraiment,
Ouais.
c'est assez impressionnant. On pense à Maguire. Bon, il y avait un contexte continental finalement, mais ouais, effectivement, là, avec le prix, c'est difficile de dire que c'est une satisfaction ou qu'on attend de voir. Là, il y a une certaine urgence à West Ham de redresser la barre. Il y a des joueurs de qualité et West Ham, c'est 13e, il me semble, au moment où on tourne cette vidéo, donc
Ouais.
très décevant.
Ok, et ben on le cale dans déception alors. Le prochain nom sur la liste, c'est Endrick, recruté par le Real Madrid à Palmeiras pour 47,5 millions d'euros. Bon, alors il avait été recruté, je crois, il y a un an, mais il était resté à Palmeiras parce qu'il n'était pas encore majeur. Bref, cette histoire, je l'ai mis dans la liste parce que officiellement le transfert a eu lieu cet été. Bon, je te laisse commencer pour Endrick. Je pense qu'on va tous les deux le mettre dans la catégorie du milieu, on attend de voir, mais vas-y.
De toute façon, Endrick, malheureusement, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Clairement, bah, il n'y a pas tant de jeux.
Je comprends
Donc,
pas
du
trop.
coup, sportivement, on peut pas. Bah, le problème, c'est que je pense qu'il arrive dans un contexte vraiment défavorable pour lui, quoi. C'est vrai qu'on, Ancelotti, là, il va, je pense, concentrer son énergie pour essayer de gérer ce collectif autour de Mbappé avec Bellingham, Vinicius, etc. C'est pas le seul à subir un manque de temps de jeu, hein. On a des joueurs comme Rodrigo, on
Ah
aimerait
oui.
les voir peut-être un peu plus, on n'en parlera pas forcément
Goulard
tous ici,
aussi.
mais voilà, effectivement. Et du coup, Endrick, là, clairement, c'est son manque de temps de jeu, c'est pas idéal pour sa progression. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est peut-être de se faire une meilleure place au Real, ou surtout d'être prêté peut-être dans un autre club. Je pense que c'est important de pas le freiner. C'est un joueur qui a du ballon, qui est décisif et qui a vraiment mentalement, j'ai l'impression, le bon spirit pour s'imposer dans un grand club. Maintenant, voilà, il faut être patient avec lui. On se souvient, c'est pas du tout le même joueur, mais Vinicius, à son arrivée au Real Madrid, avait des difficultés et au final, il s'est imposé comme peut-être le meilleur joueur du monde pour certains. Ça, c'est à vous d'en débattre dans les commentaires. Donc voilà, on attend de voir. On peut pas dire autre chose,
En fait, le
malheureusement.
problème avec Endrick, c'est que le Real Madrid a quand même eu des blessures de Vinicius, Mbappé, et même avec ces blessures-là, il n'a pas eu de temps de jeu, pas eu de titularisation. Je ne sais pas ce que va en faire Ancelotti. Apparemment, un prêt n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour quand on voit les dernières rumeurs. Mais je comprends pas que tu n'arrives pas à lui donner quelques matchs de championnat par-ci par-là. Enfin, il a eu aucune titularisation en championnat, alors que Vinicius et Mbappé ont déjà été blessés, tu vois. Si tu m'avais dit Vinicius et Mbappé, ils font une saison pleine, ils sont pas blessés depuis le début de saison, je t'aurais dit oui, bah clairement, il n'a pas la place d'être titulaire. Là, même quand Mbappé et Vinicius sont blessés, il n'arrive pas à avoir une place de titulaire. Donc ouais, la seconde partie de saison, ça me fait un peu peur pour lui s'il n'est pas prêté. Je pense qu'il va toujours pas avoir beaucoup de jeux. Et on sait qu'à cet âge-là, quand un joueur fait quasiment une saison blanche, bah, tu prends du retard sur ton développement, c'est dommage, quoi. C'est dommage.
C'est trop important de jouer. C'est trop important de jouer. Et pourtant, en plus, il fait des bonnes entrées sur ses premiers matchs
Ouais, c'est
avec le Real
ça.
Madrid. Mais il marque voilà, avec très peu de temps de jeu, un petit but. Mais voilà, on ne lui a pas forcément fait confiance. Et je pense que vraiment, il est cannibalisé par l'attention que va prendre le reste du collectif, qui a du mal quand même à fonctionner ensemble pour l'instant.
Ah mais tu vois
On en
justement, est-ce
parlera
que
plus
cette
tard.
cannibalisation, c'est pas bien pour lui, au final, d'être un peu moins médiatisé, d'être un peu dans l'ombre, tu vois, de pas être surexposé, que l'attention soit plus portée sur Bellingham, Mbappé, Vinicius, et justement en profiter pour que lui puisse se développer, acquérir du temps de jeu tranquillement. Si ses performances sont pas exceptionnelles, je pense qu'il sera pas mis sous le feu des projecteurs, parce qu'il y a d'autres joueurs qui seront mis sous le feu des projecteurs avant. Je pense que c'est assez favorable pour lui au final de pas être le mec au premier rang qu'on va directement montrer du doigt.
Oui, je pense que individuellement ça pourrait être intéressant, mais voilà, il faut jouer. Je pense que là, actuellement, dans un club comme le Real Madrid, où c'est toujours performance, performance, performance,
T'es
et on
sûr?
ne laisse pas forcément beaucoup de temps à des joueurs de se développer, ou on ne laisse pas forcément le temps d'attendre qu'un joueur puisse montrer autre chose, bah, du coup, effectivement, on va essayer d'aligner un 11 type. Et le faire fonctionner plutôt que tester de nouveaux joueurs potentiellement ou les faire progresser. Moi, je trouve ça dommage aussi, donc bon.
Bon, on le cale dans on attend de voir de toute façon,
On attend de
on
voir.
peut pas le classer ailleurs, le pauvre Henrique. On enchaîne avec le bon vieux Manuel Ugarte, transféré du Paris Saint-Germain à Manchester United, alors qu'il y a beaucoup de transferts de Manchester dans ce top 20, c'est pas forcément rassurant quand on voit la situation sportive du club, pour 50 millions du coup le transfert cet été. Alors Manuel Ugarte, je te laisse commencer. Non, je crois que c'est moi qui dois commencer pour Manuel
Vas-y, je
Ugarte.
te laisse commencer.
Ugarte, je l'ai mis dans on attend de voir. Je trouve que ce serait dur de le mettre dans déception, en sachant qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sous Ten Hag, et les quelques matchs où il a joué, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, je l'ai trouvé plutôt intéressant, milieu de terrain. Bon, c'est sûr que la comparaison avec Casemiro, ça aide à être positif. Je pense qu'avec Amorim, il peut avoir du temps de jeu, il peut être intéressant dans le schéma de jeu d'Amorim. Je pense que dans le double pivot, ça peut être un mec intéressant en première ligue. Quand on voit son activité, sa capacité à aller au duel, je pense qu'en première ligue, c'est aussi un joueur formaté pour ce championnat. Donc j'ai mis en attente de voir, parce que c'est clairement pas une satisfaction, surtout pour le prix payé pour l'instant. Mais je trouve sévère de le mettre dans déception.
Moi, je le mettrais clairement pas dans déception. Effectivement, le problème encore avec un joueur comme Ugarte, c'est le prix. Après, on sait que c'est des profils qui sont en fait pas si communs que ça. Des
Ouais.
profils à Ugarte, c'est un joueur de devoir. Hein. On s'en doute. À la récupération, il va être très très important. C'est un joueur qui va avoir beaucoup de duels et qui va essayer d'en remporter un maximum. Moi, je pense clairement que dans ce Manchester United sous Amorim, ça peut être une super belle pièce. C'est pas lui qui va orienter le jeu, hein, clairement. Mais par contre, il va être capable d'équilibrer. On sait, avec des Bruno Fernandes qui n'ont pas forcément énormément défendre, avoir un Ugarte qui est vraiment ce rôle de chien un peu fou qui va aller sur tous les ballons et essayer de récupérer un maximum la balle, ça c'est super intéressant. Jusque-là, moi je trouve qu'effectivement, les matchs où il est titulaire, notamment récemment, je trouve qu'il fait des bons matchs. Donc
Ouais.
je comprends si on attend de voir, je pense que ça va être une satisfaction. Que c'est un joueur qui va peut-être faire sa carrière en première ligue parce que ben, physiquement il est là directement, il est prêt, hein, clairement, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Et je trouve que ça montre, j'espère que ça va montrer en fait qu'il n'y a pas forcément de mauvais joueurs et seulement des mauvais contextes. C'est une phrase qu'on entend très souvent, mais moi, je pense que pour un Ugarte, ça peut être vraiment la vérité parce qu'on sait que c'est un joueur qui a des lacunes, mais par contre, bien utilisé, avec un coach qui sait comment l'utiliser et potentiellement avoir avec qui on l'associe au milieu dans le futur, je pense qu'il peut vraiment faire son trou. Donc voilà, à voir
D'accord.
si on peut le mettre on attend de voir.
Allez, go, on attend de voir. On passe au premier transfert en France avec Désiré Doué, le fameux transfert du Stade Rennais au Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. Désiré Doué, tu le mets dans quelle catégorie?
Moi, Désiré Doué, je le mets dans satisfaction.
Ouais.
On n'en a pas vu énormément, parce que voilà, il n'a pas été tant utilisé que ça en septembre, octobre, novembre. Mais là, récemment, c'est difficile de le mettre dans une autre catégorie, clairement. Faut pas oublier qu'il a que 19 ans. Désiré Doué, c'est une recrue aussi d'avenir, donc il faut le voir de ce prisme-là. Mais moi, je trouve qu'il est déjà prêt, déjà pour peser rien qu'en Ligue 1 dans la rotation. Si on se limite qu'à ça, pour moi, il est déjà clairement prêt. C'est un joueur qui en 1 contre 1 est vraiment très bon et qui est très lucide, qui est très complet finalement en fait, parce que voilà, il a cette capacité de passer du monde avec des très bons dribbles, avec une belle vivacité. Je trouve que c'est un joueur qui est quand même assez précis à la passe et qui voit bien le jeu. Et il a une bonne frappe, hein, honnêtement, on a déjà vu ça en Ligue 1, surtout avec Rennes dans le passé. Donc c'est un joueur qui actuellement joue plutôt ailier gauche, mais qui peut clairement jouer milieu offensif. Et c'est vrai que beaucoup de gens veulent le voir milieu offensif. Moi, je pense que c'est une polyvalence qui peut être clairement super intéressante pour Henrique, et qui fait que du coup, ça va être pour moi une satisfaction. Et je pense qu'il a déjà le niveau en fait pour faire une belle concurrence sur ces postes-là. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il faut le voir avec un prisme long terme. Hein.
T'as résumé un peu tout ce que j'allais dire. Moi aussi, je l'ai aussi mis dans Satisfaction. Je pense que si on avait tourné la vidéo il y a un mois et demi, il serait sûrement allé dans On attend de voir, parce qu'il n'aurait pas
Ouais.
prouvé assez pour aller dans Satisfaction. Mais ouais, son dernier mois montre que c'est quand même un joueur de talent. Comme tu dis, en plus, il est polyvalent, il est capable de jouer dans l'axe, sur le côté, pour Henrique, un ailier qui aime bien rentrer dans le cœur du jeu. On sait que je pense que ça va pas mal lui servir aussi à Henrique. Donc ouais, t'as un peu tout résumé. Pour moi, c'est
Clairement.
Satisfaction. Il est prêt à être titulaire sur des matchs de Ligue 1. Alors pourtant, il a quand même pas mal été décrié sur ses premières titulaires. Mais on sait, quand un joueur de 19 ans arrive dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, quand il rentre en jeu et qu'il a 15 minutes de temps de jeu, bah il va vouloir grailler, il va vouloir montrer qu'il est au niveau, et il va très certainement trop en faire, vouloir trop dribbler, trop montrer qu'il est à sa place. Donc quand il est titulaire, ça lui permet peut-être de jouer plus simple et de se dire, voilà, j'ai tout un match pour prouver, je suis pas obligé de faire une compilation de skills en 15 minutes, et ça lui a fait du bien sur les quelques titularisations qu'il a eues sur les derniers matchs, ouais. Donc on
Je
peut le
suis
mettre dans
complètement d'accord avec toi.
Satisfaction, on est d'accord là-dessus. Le prochain nom, c'est João Palhinha, recruté pour 51 millions d'euros de Fulham, pardon, au Bayern Munich. On se rappelle qu'il y avait eu l'imbroglio où il devait être transféré l'hiver dernier, mais où ça s'était pas fait au dernier moment. Il était à l'aéroport et finalement ils n'avaient pas eu le temps de signer les papiers. Ça a bien été fait cet été. C'est à toi, vas-y, je te laisse dire, même si je pense que Palhinha, on sera d'accord sur
Je
la
crois que c'est à toi là
catégorie, hein, pas.
de.
Ah, c'est à moi de commencer?
Ouais.
Eh ben écoute, Palhinha, je l'ai mis dans déception. Parce que je pense qu'il a absolument rien à faire là. Je pense que c'était un transfert estampillé Thomas Tuchel. Malheureusement, avec le départ de Thomas Tuchel, je pense qu'il n'a pas trop d'avenir au Bayern Munich. Dans le double pivot de Vincent Kompany, je pense que ce sera Kimmich et Pavlovic, et même un Goretzka qui peut revenir d'entre les morts. Je pense qu'il a absolument aucun avenir au Bayern Munich. Je pense que c'est une erreur de casting, comme on en a déjà vu plein dans le monde du football. Et j'y crois pas du tout à Palhinha au Bayern Munich.
Il me semble qu'il y a eu aussi des blessures pour
Ouais, il est
Palhinha.
blessé là actuellement. Il a une déchirure musculaire, ouais. Mais même
Voilà,
avant
donc.
d'être blessé, il a pas beaucoup joué, hein. Il a été titulaire que
Non,
trois
non,
fois en
non, effectivement.
Bundesliga.
Palhinha, c'est un petit peu compliqué. Moi, je trouve que moi, c'est un joueur que j'apprécie et que je pense a des qualités pour s'imposer même à côté d'un Kimmich. Si Kimmich décide de prendre ce rôle de créateur comme il aime bien le faire, ça pourrait fonctionner pour moi. À la récupération, c'est un bon joueur qui va rester très loin de sa surface. Hein, et qui peut parfois avoir des quelques petites lacunes sur la création, mais voilà, moi je trouve que effectivement c'est difficile de parler de lui parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu finalement en fait. On
Ah
peut
ouais.
difficilement le mettre dans une autre case que déception. Mais moi je serais peut-être un peu moins dithyrambique que toi. Je pense que c'est un joueur qui pourrait s'imposer même chez Compagnie. Après, est-ce que ça sera le cas ou non? C'est vrai que c'est un transfert qui est plus un transfert de Tourelle, comme tu l'as dit.
Bah, il est
Voilà,
quand
à
même
voir.
top 15 des transferts les plus chers de l'année, et tu te demandes limite ce qu'il fait là, quoi. Enfin,
Ouais, bah
donc
c'est des profils qui coûtent finalement assez cher maintenant, mais ouais, c'est vrai qu'on se pose la question. Il a 29 ans quand même, hein.
ouais.
C'est assez âgé. Voilà. Après, c'est un joueur qui pour moi pourrait vraiment bien fonctionner. Et je trouve qu'il a une très belle qualité sur le jeu long
Ouais.
pour lancer en profondeur des joueurs comme Olise qu'on va voir plus tard. Je trouve qu'il serait capable de le faire. Donc voilà, après c'est vrai que actuellement Compagnie sent pas vraiment lui faire confiance, il préfère faire jouer des Pavlovic ou des Goretzka, donc déception, mais bon.
On enchaîne avec Douglas Luiz, recruté par la Juventus pour 51,5 millions d'euros en provenance d'Aston Villa. Donc là, c'est à toi de commencer, c'est ça?
Ouais, exactement. Douglas Luiz, c'est un échec pour l'instant, hein, on sera d'accord là-dessus. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez criant. Tu ouvres Transfermarkt et tu regardes sa valeur marchande. Elle est en chute complète, c'est hallucinant. C'est un joueur qui n'a pas de temps de jeu, déjà parce qu'il est tout le temps blessé. C'est vraiment assez embêtant pour la Juve. Et en plus là pour le coup on est sur un collectif qui est en train de se construire avec autour de Thiago Motta qui est un petit peu de mal à se faire, mais qui, voilà, malheureusement, dans lequel Douglas Luiz ne semble pas forcément correspondre énormément. C'est un joueur qui semble en manque de confiance. Je ne sais pas si c'est physique ou si c'est voilà, une confiance au niveau du mental, etc. Genre, avec le staff, pas arriver à trouver sa place dans la tactique. Moi, je trouve que c'est de base un excellent passeur, mais voilà, il n'est pas très décisif. Je trouve qu'il est un peu craintif. Et, voilà, il joue un petit peu à reculons. Je trouve qu'il est assez friable au duel, là où c'était pas forcément le cas à Aston Villa. Donc voilà. Mais après, je trouve que la Juventus, c'est assez ingrat quand même. Pour les milieux de terrain, parce que le jeu va vraiment tendre sur les côtés, parce que tu as un Yildiz et un Conficao qui vraiment performent énormément, on est aussi sur un jeu de possession, ce qui est quand même assez différent de ce qu'il a pu avoir en première ligue. Il me semble que la Juventus, au niveau de la possession, c'est l'équipe qui va le plus garder le ballon, et clairement, donc il y a un changement de philosophie, un changement de contexte, de championnat, et pour l'instant, il a du mal à vraiment remplir les cases et s'imposer dans cette équipe-là.
Bah moi je l'ai aussi mis dans déception et ouais je comprends pas trop le transfert en fait. J'en viens à me demander si Thiago Motta voulait vraiment le recruter ou si c'est pas une erreur de casting comme un Palinha ou parce que. Et même avant sa blessure, il l'a très peu fait jouer. Il a eu que deux titularisations en championnat, ce qui est quand même très très peu. Pour un
Pas
joueur
prêt, je
recruté
pense, hein.
51,5 millions d'euros. En fait, je me demande pourquoi ce transfert-là, quand on voit le Aston Villa, pourquoi être parti d'Aston Villa pour aller à la Juventus? Il y a un truc que je comprends pas, quoi.
Moi, j'attends un peu de voir si voilà, il n'y a vraiment pas des gros pépins physiques. Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression, quand je le vois jouer, qu'il n'est pas, il est vraiment pas à 100%.
Ouais,
C'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas vraiment titulaire. Peut-être qu'il ne tient pas il tient pas 90 minutes ou il ne tient pas 70 minutes vraiment à haute intensité comme va le demander Thiago Motta. En plus, on est quand même dans un système qui se veut vraiment très fort défensivement. Voilà, il faut des joueurs à 100% tout le temps, et pour l'instant, ouais, clairement, il va pas remplir ce rôle-là. Moi, je lui souhaite de retrouver confiance, que ce soit physiquement
parce que c'est un
ou
bête de joueur en
mentalement, et
plus,
là, on
là.
pourra
Qu'il faisait à
vraiment se
Aston
faire
Villa,
un
c'était
avis.
dingue, quoi.
Ouais, franchement, ouais, j'ai un peu de mal à comprendre. Voilà, on ne peut pas le mettre dans une autre case que déception,
Non, non.
mais voilà, il y a clairement quelque chose à régler, à voir comment ça se passe sur cette seconde partie de saison.
Ça va en déception, on est d'accord. Bon, on enchaîne avec un nom qui va sûrement pas mal faire parler, c'est João Félix, transféré de l'Atlético Madrid à Chelsea pour 52 millions d'euros. Donc là, c'est à moi de commencer. Bon, bah, Félix, c'est mon pire transfert. Hein. C'est le joueur que j'ai décidé de mettre dans la catégorie pire transfert. Je serais pas étonné que toi aussi. Bah, pour moi, c'est un échec total. Et pire transfert, ça résume un peu la carrière de João Félix dans sa globalité, en fait. Hein. C'est que je pense que si on faisait des tier list de tous les mercatos, franchement, je pense qu'il serait pas loin de la case pire transfert sur les trois derniers mercatos. C'est assez dingue. Enfin, 52 millions d'euros. On parlait de la valeur marchande de Douglas Luiz. Là, je suis sur Transfermarkt en même temps. João Félix, il a maintenant une valeur marchande de 30 millions d'euros, alors qu'il a été acheté 52 millions d'euros il y a 6 mois. Il a pas de temps de jeu à Chelsea. Enfin. Personne, enfin la carrière de João Félix, de toute façon, c'est un échec continu, un joueur ultra prometteur. Sur le terrain, il est capable de faire des choses incroyables, on le sait tous, mais ouais, les choix de carrière, ils sont désastreux. Et là, Chelsea, bah, ça a l'air d'être encore un nouveau flop, hein.
Mais ouais, là pour le coup, l'erreur de casting, je la trouve assez monumentale parce que bah, Félix, clairement, là, il peut pas avoir de temps de jeu parce que devant lui, il y a Cole Palmer ou il y a un joueur comme Nkunku qui clairement vont passer devant lui parce qu'ils sont juste plus performants et peut-être qu'ils correspondent mieux aussi à un profil collectif. Ils ont un profil un peu plus collectif que João Félix. Et comme tu l'as dit, effectivement, bah, sa carrière, elle commence pas très bien. Ouais, il est transféré, je sais plus, à plus de 120 millions à l'Atlético, un transfert qui franchement fait peu sens maintenant aujourd'hui et qui à l'époque faisait peu sens également. Et du coup, je pense qu'il a toujours eu une certaine pression et en fait, je trouve que c'est un joueur qui est instable. Pas forcément, quand je dis instable, c'est pas forcément le joueur en lui-même
Oui, oui.
mentalement parce que je le connais pas personnellement, mais sa carrière est instable.
Ah bah
Il
oui.
se fait trimballer de club en club. Je trouve qu'il se fait toujours barrer par un autre joueur. Enfin, au Barça, on se souvient de c'est peut-être son premier mois ou ses deux premiers mois où on le considère un peu comme un indiscutable ou comme un sauveur capable de débloquer les matchs. Et puis en fait, très rapidement, il se fait bench parce que voilà, je sais pas, il manque quelque chose avec lui. Je pense que je sais pas comment le joueur se comporte exactement dans un vestiaire, mais
Ouais, on
voilà,
saura jamais, ouais, mais.
je pense qu'il y a clairement des choses qui ne conviennent pas. Et puis il y a aussi ce débat aussi un peu éternel où on dit que Félix, finalement, pour le football moderne, ça correspond pas.
Oui.
Il a pas de poste fixe, mais c'est vrai que du coup, effectivement, quand on se fait trimballer de poste en poste en fonction des clubs et des championnats, on a encore une fois un manque de stabilité. Et là, ouais, à Chelsea, il peut
Et
pas
tu vois,
s'imposer. Pourtant,
même d'un
il
point,
fait de
même
belles
du
choses,
point de vue
hein.
de Chelsea, tu vois, même du point de vue de Chelsea, le transfert, enfin, quand on connaît la politique de Chelsea de recruter plein de jeunes joueurs, etc., aller mettre 52 millions d'euros sur un joueur Félix qui a quand même maintenant 25 ans, hein, on parle plus d'un joueur de 20 ans en train de se développer, hein, Félix, on a l'impression que
Ouais.
c'est toujours une jeune pépite, mais il a quand même déjà 25 ans, donc il est censé être à son prime, même niveau Chelsea, aller claquer 52 millions d'euros sur un joueur comme ça, en plus, on le savait, quoi, l'Atlético, c'est
Ouais.
pas tu le recrutes, le mec était en pleine bourre à Benfica, bon, ça le fait pas, ça arrive, il y a des transferts qui flopent. Là, c'est qu'il y a quand
Ça
même des
arrive.
gros red flags depuis plusieurs saisons sur João Félix. Donc même du point de vue du club de Chelsea, j'avoue que le transfert, j'ai du mal à le comprendre. Donc pour moi, c'est
Ah
le pire
oui,
transfert de la liste, il n'y a pas photo.
pour moi, c'est vraiment une erreur du casting de Chelsea d'aller le chercher parce que c'est un joueur. Moi, je trouve déjà c'est un joueur qui vraiment va potentiellement causer des problèmes au sein de ton collectif. Et bah, ça peut être un joueur un peu fantasque qui vraiment fait des belles choses, etc. Quand il joue, honnêtement, il peut apporter, mais le problème,
Oui.
c'est que est-ce qu'il accepte d'être remplaçant, de jouer des petites minutes par-ci, par-là? Et puis aussi, même d'un point de vue personnel, est-ce que le joueur peut vraiment être performant s'il joue pas? Ouais, c'est vraiment, il aurait dû aller dans un autre club, un club un peu inférieur, peut-être en première ligue. Hein, je suis pas. Voilà, il y a des clubs qui auraient été très contents d'avoir un joueur Félix, mais c'est sûr que quand on voit qu'un Chelsea peut mettre 50 millions sur lui, ben, il n'y a
Pour
pas
moi, c'est
vraiment de
pire
concurrence,
transfert et ça
quoi.
rejoint les noms des grands gâchis du football, quoi. Quand on voit ce qu'il était capable de faire quand il était jeune, à 25 ans, en
Ouais.
être là, c'est quand même bien triste. Donc on le met dans pire transfert, on est d'accord? C'est
Ouais,
notre
je pense
élu?
que c'est peut-être le plus décevant, en tout cas. Moi,
Ouais, carrément, il n'y a pas
j'appréciais beaucoup
photo.
le joueur. Au départ, je trouvais pas sa valeur justifiée de 120 millions d'euros, mais clairement, il me déçoit d'année en année. C'est mérité.
Eh ben allez, go, pire transfert alors. On enchaîne et on va peut-être passer du tout au tout, puisqu'on passe de João Félix à Michael Olise, transféré au Bayern Munich pour 53 millions d'euros en provenance de Crystal Palace. Alors, tu l'as placé où, Olise?
Pour moi, c'est le meilleur transfert de cette liste. Voilà, Olise,
On est
clairement,
d'accord.
c'est un joueur que j'adore. Et je pense que beaucoup de gens seront d'accord pour le placer tout en haut de cette
Ouais.
tier list parce que bah, l'adaptation, elle est express et c'est un joueur qui a des qualités folles et qui a pris confiance de manière assez incroyable et qui
C'est
surtout se
clair.
montre un peu au monde entier. C'est vrai que depuis ses performances, notamment aux Jeux Olympiques, on a vraiment conscience du talent de Olise. Je parle d'un point de vue national, grand public. Mais voilà, c'est pas pour rien que le Bayern a investi sur lui. Moi, je trouve que le montant du transfert pour ce qu'il délivre sur le terrain est
Ouais, on parlait de
excellent pour le
rapport
Bayern.
qualité-prix. T'as 53 millions pour certains joueurs, c'est aberrant. Et tu te dis 53 millions pour un profil comme Michael Olise. C'est pas donné, mais c'est clairement pas surpayé, quoi.
C'est un profil que je pense bah, quasiment tous les grandes écuries
Ouais.
d'Europe pourraient vouloir. C'est un joueur qui est extrêmement vivace, qui a vraiment toutes les qualités pour s'imposer. C'est un excellent dribbleur. Je trouve qu'il a une lucidité incroyable dans le dernier geste. Il est capable voilà, de lâcher cette petite dernière passe si importante dans le football. Et ouais, meilleur transfert pour moi. Hein. Je pense que Kompany est bien heureux de l'avoir dans son effectif.
Non, ouais, pour moi, il n'y a pas photo. Et je trouve que c'est vraiment très bien joué de la part du Bayern. Parce qu'en plus, on sait qu'un
Ouais.
joueur qui explose dans un club comme Crystal Palace, c'est quand même un mec promis au top 7, top 5 de première ligue. On sait à quel point c'est difficile de faire sortir des joueurs de première ligue, notamment de par leur salaire. Donc, ouais, arriver à faire sortir Michael Olise
Ouais,
de
je suis
première ligue
d'accord.
pour seulement 53 millions d'euros, c'est vraiment un coup magnifique. Et ouais, sur le début de saison, il n'y a absolument rien à dire. Il est ultra décisif, il s'est imposé très rapidement. Il a mis sur le banc des mecs comme Sané, Gnabry, bon, alors qu'ils s'y mettent un peu aussi tout seul, hein. Mais ouais, en fait, il est devenu
Ouais.
indispensable dans un collectif comme le Bayern Munich. Et rien que ça suffit à considérer que c'est le meilleur transfert de l'année 2024.
Et en même temps, j'ai envie de te demander, est-ce que ça te surprend? Parce que c'est
Non.
Michael Olise, depuis, je pense, 2 ans, nous, avec Datascout,
Ouais.
c'est vrai que c'est un joueur qu'on suit énormément et qui, en fait, surclasse à peu près tout le monde au niveau de la data. C'est un joueur qui va constamment dans nos algorithmes ressortir en premier. Et en fait, quand tu le regardes sur le terrain, tu comprends pourquoi il n'y a pas de différence. En fait, c'est un joueur vraiment ultra efficace qui a été un petit peu ralenti par des blessures
Ouais.
qui a fait qu'il n'a pas pu vraiment enchaîner et
Ouais,
du
le
coup
vrai
faire des
point positif, c'est vrai
super
qu'il n'a pas été blessé
saisons.
depuis le début de saison. C'est peut-être la petite crainte qu'on pouvait
Ouais.
avoir quand il a été transféré au Bayern, en mode est-ce que physiquement ça va tenir le coup? Pour l'instant, il n'a pas subi de blessure. C'est vrai que c'est un gros point positif pour lui quand on connaît son
Ouais,
historique.
c'est l'enjeu, mais en tout cas, c'est un joueur qui est ultra mature, qui est encore vraiment jeune, 23 ans. Clairement, il a tout l'avenir devant lui. C'est pour moi le meilleur transfert de la liste, clairement, quoi.
On est d'accord. Allez, ça part dans meilleur transfert. On enchaîne avec Tone Koopmeiners, transféré à la Juventus depuis l'Atalanta Bergame pour 54,7 millions d'euros. Gros feuilleton de l'été. Hein. Son transfert a pris du temps à se faire de
Galère, une
transfert
galère.
italien, de club italien à club italien. Mais finalement, ça s'est fait. Moi, Koopmeiners, je l'ai mis dans On attend de voir. Je ne sais pas si c'est peut-être pas un peu sévère. Mais j'avoue que le début de saison, en plus c'est un joueur qu'on aime beaucoup, Koopmeiners, à l'Atalanta, il faisait des trucs absolument exceptionnels. C'est un joueur quand même balle au pied, il est capable de faire des choses que peu de joueurs dans le monde peuvent réaliser. Mais c'est un peu à l'image de la Juventus en fait, c'est un peu décevant depuis le début de saison, pas assez pour que ça aille dans déception, mais c'est pas assez correct pour que ça aille dans satisfaction selon moi, donc je le mets dans On attend de voir.
Moi, Koopmeiners, j'hésite à le mettre dans déception personnellement
Ah ouais?
parce que c'est un mais en fait c'est un joueur dont, comme tu l'as dit, on attend beaucoup parce que c'est un joueur qu'on apprécie énormément. On sait que c'est un joueur qui peut être fantastique, qui a une vision de jeu vraiment magnifique et qui est capable au duel d'être vraiment vraiment performant. Et je trouve que son impact dans la Juve de
C'est
Thiago
ça.
Motta est un peu décevante. Et de ce point de vue-là, du coup, j'ai envie de dire que c'est une déception. Après, si je suis un peu plus neutre, ça fait que 6 mois qu'il est arrivé à la Juve
Ouais.
et c'est un joueur qui, pour moi, va se reprendre. Donc on pourrait le mettre dans on attend de voir. Mais actuellement, ouais, je sais pas, je trouve qu'il perd des duels qu'il ne perdait pas à l'Atalanta, que ça reste un bon passeur, mais qu'il manque vraiment de régularité. Je pense qu'il peut vraiment offensivement être encore plus décisif, pas forcément dans les passes décisives, mais peut-être voilà, faire plus au niveau de la progression de la balle. Je trouve qu'il peut-être qu'il prend un peu moins de risques à l'Atalanta. Je pense qu'il est un peu moins à l'aise en général. Et puis il a quelques pépins physiques aussi qui, je pense, le ralentissent un peu.
Ouais, il a une côte fracturée notamment, ouais, qui l'a fait louper quelques
Ouais,
matchs.
voilà, c'est des petits trucs, mais en fait, ça te coupe le rythme. Et je pense qu'un joueur comme lui, là, dans l'effectif de Mota, qui est quand même tactiquement très demandant, je trouve que c'est important pour lui d'avoir du rythme. Donc voilà, entre déception et on attend de voir. Si tu veux le mettre dans on attend de voir, je comprends.
Allez, vas-y, on le met dans on attend de
Ouais.
voir alors. Allez, on attend de voir et on surveille les 6 prochains mois, quoi.
C'est ça.
Allez, on fait
Petit
ça.
carton jaune.
Voilà, exactement. Prochain nom, bon, un nom assez compliqué à analyser, c'est Dani Olmo, transféré de Leipzig à Barcelone cet été pour 55 millions d'euros. Bon, un peu ironie du sort, au moment où on tourne la vidéo, on est fin 2024, donc on n'a pas encore la réponse de est-ce que Dani Olmo va pouvoir être inscrit la seconde partie de saison, même s'il y a des rumeurs comme quoi Laporta aurait vendu
Ouais,
des
bon.
sièges VIP pour pouvoir inscrire
Ah, le
Olmo et
levier!
le 55e levée financier activé par le FC Barcelone. Bon,
Ah,
en tout cas,
c'est
c'est toujours un joueur du FC Barcelone. Moi, Dani Olmo, je l'ai mis dans On attend de voir, parce que c'est trop compliqué en fait. Le début de saison a été bon quand il a joué, après il a été blessé. Depuis qu'il est revenu, il est un peu moins décisif. Après, je pense que quand t'es un joueur comme ça, le contexte et le fait de pas savoir si tu vas être inscrit jusqu'à fin décembre, je pense que ça pèse, quoi. Tu sais pas de quoi va être fait ton avenir. Ça se trouve, le 1er janvier, on te dit, bon, bah, désolé, gars, on n'a pas pu t'inscrire, faut que tu trouves un autre club. Donc, je
Non,
pense
mais
que
c'est
ça
vraiment
pèse sur un
ridicule.
joueur. Quand on voit ce qu'il a fait notamment à l'Euro, ce qu'il a fait à Leipzig, on sait que c'est un top joueur. Donc, on peut pas le mettre en déception, mais ouais, on est obligé de le mettre dans On attend de voir.
Bah, Dani Olmo, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui, clairement, même à Leipzig, a toujours soufflé le chaud et le froid.
Ouais.
Et là, je trouve qu'effectivement, il a bien commencé la saison. Moi, je me souviens de son match contre Dortmund où vraiment il
Ouais.
est excellent. Et clairement, il montre tout son talent, ce qu'il a montré finalement pendant l'Euro. Mais ouais, depuis mi-novembre, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Je pense effectivement que le contexte général n'est pas favorable pour lui. Et puis quand même, il est assez cher payé. C'est un super joueur, mais 60 millions, ça pour
Bah, on peut aussi se
un
poser la question
Barça.
du FC Barcelone qui claque 55 millions d'euros sur un
Bah
joueur
ouais,
qu'ils sont
c'est
même pas
ça.
sûrs de pouvoir inscrire et pour lequel ils ont un risque. Alors je pense pas que ça arrivera, hein, quand le FC Barcelone les activera un levier financier, mais t'as un
Mais
risque
bon.
que le mec début janvier tu doives le laisser partir libre et que t'aies investi 55 millions d'euros dans le vent, quoi.
Ouais, et puis il y a un moment où en fait il n'y aura plus de levier financier, clairement, au Barcelone, il va falloir. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à voir financièrement, je suis pas expert, mais voilà, on ne sait pas si dans 6 mois le club est debout, parce qu'en
Bah,
fait vraiment
le
il
problème, c'est que je
survit
pense qu'en
grâce à
fait,
des leviers.
il repousse l'échéance petit à petit, quoi. Je pense qu'au bout d'un
Ouais.
moment, tu vas plus pouvoir repousser l'échéance, et au bout d'un moment, financièrement, enfin, de toute façon, on le sait que les clubs espagnols, c'est les clubs, enfin, les clubs espagnols, tu les mets face à la DNCG, je pense que le Barça et le Real, ils sont rétrogradés en National 2, quoi. La DNCG,
Bah,
ils
le
deviennent
Barça,
fous s'ils voient les comptes des clubs espagnols. Donc,
non,
ouais, je pense
clairement.
ils retardent l'échéance, et au bout d'un moment, bah, en fait, c'est une bombe à retardement, quoi. Et quand la bombe va
Ouais.
exploser, je pense qu'elle va vraiment exploser et que ça va être terrible pour un club comme Barcelone. Mais ouais, Daniel Simon, on est d'accord, on le met dans, on attend de voir, et on attend de voir déjà s'il sera au Barça dans quelques
Bah,
jours.
c'est ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, c'est une super plaque tournante offensive pour Barcelone et je trouve qu'il s'entend bien avec ses coéquipiers en plus. Enfin, ça se voit
Après,
sur le
je
terrain,
pense
ça se
qu'il
sent
souffre
bien.
aussi, tu vois, de l'éclosion d'un Rafinha qui n'était pas forcément attendu. On n'attendait pas du tout que Rafinha ait ce
Bah,
niveau-là
forcément,
cette saison.
forcément.
Et forcément, avec Rafinha, je pense que tu peux difficilement aligner Olmo plus Rafinha plus Yamal en ligne d'attaque, tu vois. Donc, je pense
Non, clairement, il faut faire des
qu'il
choix.
subit aussi l'éclosion de Rafinha qui fait que Rafinha est quasiment tout le temps titulaire et que lui a peut-être moins de responsabilités sur Hansi Flick. Mais bon, voilà, on attend de voir et curieux de voir ce que ça va donner la seconde partie de saison pour Dani Olmo. On enchaîne avec Amadou Onana, transféré d'Everton à Aston Villa pour 59,4 millions d'euros. Bon, un peu le remplaçant numérique de Douglas Luiz, hein, du coup. Toi, tu l'as classé où, Onana?
Onana, je pense que c'est quand même une satisfaction,
Ouais, je suis d'accord.
clairement. Voilà, on le dit souvent, nous, sur X ou ailleurs, Onana, c'est un profil qui est très rare. Et de l'avoir à ce prix-là, je trouve que c'est plutôt un
Ouais,
bon
c'est
prix
un
sur le
bon
papier.
recrutement, ouais.
Maintenant, voilà, je trouve qu'il y a une adaptation qui est naturelle, qui arrive petit à petit pour lui, parce qu'à Everton, vraiment, il était flamboyant, mais c'était un contexte très différent,
Ouais.
clairement. Là maintenant, Amadou, il est dans une équipe où il a moins besoin de faire jouer son équipe parce qu'Aston Villa en fait est une équipe très performante avec des joueurs vraiment de qualité, alors que Everton c'était vraiment le joueur unique du milieu de terrain qui
Ouais.
clairement c'est son niveau de jeu qui va décider de si Everton est correct ou très mauvais. Donc voilà, clairement c'est une super sentinelle, il est capable de tout faire. Onana, il est solide au duel, il sait garder le ballon et avancer avec s'il le
Ah, il
veut.
est ultra
C'est un super
polyvalent.
passeur, il a une bonne vision de jeu. Enfin, voilà,
Pour
ça
moi,
reste
ça
une
fit parfaitement
satisfaction.
avec un Unai Emery, quoi. C'est le genre de joueur qui peut un peu façonner. C'est un peu un joueur
Magnifique.
couteau suisse. Pour l'avoir à ce prix-là, ouais, je trouve que le prix n'est pas du tout délirant. C'est le prix à payer, je pense, pour avoir un joueur de cette qualité-là. Je pense qu'il va s'imposer aussi avec la Belgique petit à petit. Il n'est pas si vieux que ça, hein, Amadou Onana. Il a que
Il a
23 ans.
23 ans.
Donc
C'est super
il peut
jeune.
encore largement progresser. Donc ouais, pour moi, c'est une satisfaction. Puis t'es obligé de le mettre en satisfaction quand tu vois les noms qu'on évoque. Au final, on va voir qu'à la fin, il va quand même y avoir très peu de satisfaction. Donc dans le lot, en plus, vu que tout est relatif, je pense qu'Amadou Onana est l'une des meilleures satisfactions de ce top 20 des transferts les plus chers.
Ouais, et puis pour terminer sur Onana, je trouve que c'est un profil où son niveau plancher est en fait très élevé.
Ouais, je suis d'accord, ouais.
Clairement, en fait, je trouve que Amadou Onana, on va rarement avoir de match où on va se dire,
Ouais.
ah ouais, là vraiment il a déconné, il a fait n'importe quoi. Non, en fait, il est tellement actif et il est tellement capable d'être impactant défensivement et offensivement que tu te retrouves avec un joueur qui est très régulier et qui va le devenir de plus en plus. Et clairement, pour Aston Villa, c'est une aubaine de l'avoir.
Carrément, carrément. Eh ben allez, ça part dans satisfaction. On revient en France avec le transfert de João Neves de Benfica au Paris Saint-Germain pour 59,9 millions d'euros. Attention, pas 60 millions d'euros, hein, 59,9 millions d'euros.
Important.
Bah, João Neves, je pense que si on avait pu mettre deux joueurs dans la catégorie meilleur transfert, je pense que je l'aurais mis aux côtés d'Olise. Donc, il va aller dans la catégorie satisfaction parce que pour moi, Olise est un peu supérieur à lui en termes de rapport qualité-prix. Mais pour moi, c'est le deuxième meilleur transfert de la liste et de très très loin. On connaît la qualité de João Neves, on savait ce qu'il produisait à Benfica, on savait ce qu'il était capable de produire au Paris Saint-Germain. Ce que je trouve fort, c'est qu'il s'est directement imposé dans l'effectif, quoi. Il n'y a pas eu de période d'adaptation, il a directement été décisif, il a directement apporté une plus-value de dingue au milieu de terrain. Je pense qu'il a même, sur le début de saison, je pense qu'il est plus performant que Vitinha. Vitinha qui avait en
Je
plus une
pense, hein.
petite période compliquée avec une blessure qu'il a eu du mal à récupérer, on dirait. Enfin, pour moi, il s'est rendu indispensable au milieu de terrain. Et ouais, c'est un joueur ultra jeune, 20 ans, que tu peux façonner, que Luis Enrique va pouvoir façonner. 60 millions d'euros pour ce profil-là, c'est clairement pas surpayé. Et pour moi, c'est un mec que tu peux utiliser dans les années à venir et qui va être un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est déjà un des meilleurs milieux de terrain du monde.
Non, je suis d'accord avec toi, franchement. C'est un joueur qui a 20 ans et je trouve que c'est assez fantastique de le voir s'adapter comme ça dès les premiers matchs.
Ouais, en fait,
Et
tu le
puis il
vois
est
jouer, t'as
décisif.
l'impression qu'il a de la bouteille, qu'il a déjà 25 ans, qu'il évolue depuis
Voilà, c'est
3
ça.
ans en Ligue 1, au Paris, au PSG. Il
Ouais,
dégage de la
exactement.
sérénité quand il joue, c'est hallucinant, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que maintenant Paris, voilà, juste à trouver le bon fit au
C'est
milieu et
ça.
les bonnes rotations pour vraiment avoir deux joueurs qui sont quand même vraiment très très performant. Vitinha, on l'a vu la saison précédente. Là, effectivement, il a été un petit peu plus en retrait récemment. On peut lui demander peut-être de jouer un peu plus haut, ce serait cool. Parce que je pense qu'il est capable de faire ça. En tout cas, João Neves, clairement, c'est une super satisfaction. C'était pas non plus tant gagné d'avance, on connaît ses qualités. On savait qu'à Benfica, c'était vraiment un joueur vraiment exceptionnel, avec un énorme potentiel. Mais voilà, on parlait beaucoup du potentiel, mais peut-être pas forcément de la plus-value immédiate. Et là, il a immédiatement été très impactant. Et il me semble qu'il se retrouve avec 5 passes décisives en Ligue 1 en premier match, ou je sais plus exactement le nombre de matchs qui lui a fallu pour ça. Mais voilà, donc c'est une
Non,
satisfaction
puis en plus, on se
forcément.
rappelle de Vitinha à l'époque où il arrive de Porto, où il a quand même fallu plusieurs mois pour qu'il arrive à convaincre les supporters. Au début, c'était un peu compliqué, il avait été pas mal moqué, les supporters se disaient, attends, on a encore un surpayé, un mec venu du Portugal comme Ugarte, etc. João Neves, il n'y a pas eu cette période, quoi. Dès les premiers matchs, tu le vois sur le terrain, tu te dis, ah oui, d'accord, j'ai payé 60 millions d'euros, mais j'ai payé pour la qualité, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille.
C'est
Et
ça.
ça, c'est quand même assez impressionnant quand t'as seulement 20 ans. Donc ça va directement en satisfaction, sans aucun débat, on est d'accord.
Ouais, je suis d'accord. Maintenant, il faut que Paris trouve les bons fits. C'est tout.
Exactement. On enchaîne avec Pedro Neto, transféré pour 60 millions d'euros de Wolverhampton à Chelsea. Tu l'as classé où, à Pedro Neto, toi?
Pedro, je trouve que c'est un joueur qui n'est pas facile à classer, clairement. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a toujours eu du potentiel, qui clairement a des super qualités, qui est très explosif, etc. Moi, j'aimerais bien attendre de voir. Parce que je trouve que c'est un joueur qui a un petit peu changé de dimension récemment. Là, il s'est imposé en tant que titulaire parce que à chaque fois qu'il rentrait, honnêtement, il apportait quelque chose en début de saison. Et je trouve que son point fort, c'est sa capacité à enchaîner plein de passes de dribble, parce que c'est un joueur qui est capable de ça et qui après va être capable de te faire un super centre, par exemple, en plein milieu de la surface avec beaucoup de précision. En contre, il est vraiment intéressant, et contre Arsenal, il marque un but qui est somptueux, vraiment un but de classe internationale. Donc moi, je veux quand même attendre de le voir, parce qu'effectivement, Chelsea, c'est toujours un petit peu le marasme collectif, même si là actuellement ça va beaucoup mieux et que au classement ça va. Mais en fait, il y a tellement de joueurs de qualité que je trouve que c'est toujours difficile de trouver sa place. Mais il est parvenu, et voilà, je pense que c'est on attend de voir. Ça, je sais pas si tu vas le mettre plus haut, plus bas. Moi,
Moi,
peut-être que je pourrais le mettre un peu plus
je
haut.
l'ai mis en déception, mais je suis peut-être un peu
Ah ouais?
sévère parce que c'est Chelsea et que j'ai un avis assez négatif sur Chelsea. En fait, c'est le genre de transfert où on souffle, quoi. Je veux dire, est-ce que Pedro Neto, il aurait pas pu aller ailleurs qu'à Chelsea
Individuellement, ouais, c'est toujours la question, hein, ça, Chelsea. Mais je trouve que justement, c'est là où je trouve que c'est intéressant ce qu'il propose, c'est qu'il a réussi à
Bah,
s'imposer
c'est ça. Au
malgré
contraire d'un João Félix,
l'énorme
oui, tu le payes 60
concurrence.
millions d'euros, mais au moins lui, il joue, il impacte les rencontres, lui, au moins, il est titulaire. Donc,
Ouais, et puis
on peut le mettre dans
qu'il
on attend de voir, j'ai peut-être été sévère, mais en fait, la qualité d'un joueur comme Pedro Neto, pour moi, il devrait être quasiment titulaire indiscutable, pardon, dans un club du top 7. Il devrait pas être en mode, c'est le troisième ailier de la rotation, il joue titulaire parce que l'autre est blessé. Enfin, à tout moment, Chelsea ramène un mec qui lui passe devant dans la hiérarchie cet hiver ou l'été prochain. En fait, je trouve ça dommage pour un joueur d'une telle qualité d'être allé à Chelsea dans un club où il y a déjà 10 000 attaquants et au final, tu connais pas trop. Ton avenir est assez incertain. À tout moment, tu peux te faire doubler. Enfin, on va le mettre dans on attend de voir parce que j'ai peut-être été sévère, mais parce que son début de saison n'est pas si horrible que ça. Au final, il est plutôt bon. Il a joué pas mal
Moi,
de
je trouve que c'est un
matchs,
bon
mais...
début de saison quand même, pour le contexte que tu viens d'évoquer, qui est très difficile quand même. Et ça, pour le coup, le choix individuel du joueur, il est potentiellement à questionner, hein. C'est comme d'habitude Chelsea. C'est vrai que là, de l'extérieur, on n'a pas trop l'impression que c'est le club le plus attractif, parce qu'ils ont 45 joueurs à placer sur un 11 de départ, et
Ouais,
c'est
puis
pas
moi, il y a
forcément
toujours aussi
facile
le
d'en placer
souci des
45, hein.
contrats, quoi. Je veux dire, Pedro Neto, il a un contrat jusqu'en 2031.
Ouais, non, mais ça c'est moi, je pense que Chelsea, il y a une vraie stratégie qui va falloir vraiment voir, parce que au niveau du fair play financier, ils ont tellement empilé les transferts que d'ici 2031, en fait, le fait d'avoir étalé les paiements et les contrats, ça va leur permettre de revendre des joueurs et du coup d'équilibrer les finances. Ils vont pouvoir vraiment faire des transferts à l'infini. Donc bon, ça c'est vrai que niveau pour le football, c'est une déception, ça, pour le football
Ouais, non,
forcément.
mais en plus, je le dis tout le temps. Moi, quand j'étais ado et tout, Chelsea, c'est l'équipe que je préférais le plus hors Ligue 1. Et ouais, j'avoue que j'ai du mal à retrouver le Chelsea que je connaissais, quoi. Les joueurs ont des contrats jusqu'en 2031. On le voit avec un Mudryk qui est pris pour dopage. Je pense que le mec en a rien à foutre parce que de toute façon, il sait qu'il a un contrat de 6 ans qui court. Donc, au pire, même s'il est suspendu, il sera payé tranquille pendant 6 ans. Et ouais, même pour les joueurs. Alors là, on note les transferts. Donc, on n'est pas forcément du côté des clubs, mais du côté du joueur 2031, enfin si ça se passe pas très bien, t'es quand même un peu enchaîné à ton club, quoi. Si ton club a pas envie de te libérer, et genre un Joao Félix, si Chelsea a pas envie de le libérer, bah mec, tu vas faire banquette et tu vas bien la chauffer, la banquette, hein. Donc
Ouais, tu
ouais,
pourras parler
Pedro
de
Neto,
la.
on peut le mettre dans en attente de voir.
Ouais, clairement, on attend de voir. Et on parlait de la gestion des clubs en Liga, que clairement, si on mettait un dé dedans, ce serait quand même dramatique. Franchement, en Première Ligue, il y a aussi cette sacrée largesse sur ces dernières années. On a l'exemple City, où ça leur retombe un peu dessus, mais clairement, un Chelsea, là, niveau magouille, on est quand même sur un niveau assez important. Hein, donc,
Ouais, bah après, je sais pas si on peut, je sais pas si c'est des magouilles, hein, parce qu'au final,
Non, ils profitent
ils font juste
des
signer des
largesses
contrats longs,
de
ils ont le droit de le
règlement.
faire, et ils ont totalement le droit de le faire, hein,
Mais moi,
mais oui, on peut se
j'ai.
questionner sur l'avenir, quoi. Tu vas pas pouvoir recruter 10 joueurs à chaque mercato et leur signer un contrat de 6 ans, parce qu'au bout d'un moment, déjà que t'as trop de joueurs dans l'effectif, au bout d'un moment, tu vas être littéralement bloqué, enfin, je sais pas comment tu vas pouvoir faire. Donc ouais,
Financièrement, ils
c'est
sont.
ça qui m'interroge.
À voir dans les commentaires, parce que, encore une fois, je ne suis pas expert financier, mais j'ai l'impression que, quand même, là, ils sont tellement blindés de joueurs qu'en fait, ils vont pouvoir vendre un peu comme ils veulent et que les indemnités vont leur permettre vraiment de pouvoir rééquilibrer leur effectif comme ils veulent, parce qu'en fait, ils ne seront pas jamais inquiétés, ils ne vont jamais avoir une balance négative, puisque. Ils ont investi des tonnes et des cents sur 20 joueurs en deux mercato limite. Donc
Ah ouais. Non mais je pense que la
ouais, c'est.
stratégie est réfléchie et juste pour,
Ah
vu
ouais,
le
je
début de
pense que c'est
saison
intelligent
qu'ils
de leur
affichent,
part.
pour l'instant
Ouais,
la stratégie a l'air payante, quoi. Faudra voir l'été prochain ce que ça donne. Mais Pedro Neto, allez, on le met en attente de voir, je te
ok.
concède. On reste en Angleterre avec Lenny Yoro, transféré cet été du LOSC à Manchester United pour 62 millions d'euros. Donc un très très gros transfert pour un joueur de 19 ans. Bon, Lenny Yoro, j'ai mis dans mon attente de voir, hein. Le pauvre, il a eu sa blessure à la malléole qui lui a coupé tout le début de saison. Il est revenu que très récemment, au début du mois de décembre. Donc il n'a pas encore énormément joué. Donc on va le mettre dans en attente de voir. Je pense que tu seras d'accord là-dessus. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner avec Amorim, parce que je pense que c'est le genre de joueur que Amorim peut façonner et peut l'aider à devenir un grand défenseur. Alors, je pense tout de même que 62 millions d'euros, c'est très cher pour Lenny Yoro. Je pense que c'est même un peu surpayé. Je suis pas sûr qu'il va l'esprit à ce moment-là dans sa carrière. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que toi t'en penses de Lenny Yoro. C'est un peu compliqué d'avoir un avis vu son début de saison, mais.
Ouais, bah on va le mettre dans. On attend de voir. Le montant de transfert, effectivement, il est quand même important. 62 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais voilà. Donc, dans tous les cas, avec sa blessure, on peut difficilement le juger. Mais effectivement, comme tu l'as dit, moi, je suis vraiment très intéressé de voir ce que ça va donner, parce que là, Yoro, il va devoir jouer dans une défense à 3,
Ouais.
avec quand même un système qui est différent de ce qu'il a connu à Lille.
Ouais.
Donc, tu as l'adaptation aussi à la première ligue qu'il faut quand même pas négliger pour un joueur de son âge. Il faut vraiment lui laisser du temps. Mais en tout cas, Amorim compte énormément sur lui, j'ai l'impression. Mais voilà, faut vraiment pas qu'il se fasse manger par la pression aussi qui est celle de Manchester United, qui est un club avec des énormes
Après.
attentes et qui a été très déçu. Oui.
Tu vois, on dit Amorim compte sur lui, c'est aussi parce que la défense centrale de Manchester United est cadavérique, quoi. Je
Ah
pense que
bah
quand t'as un
voilà,
Lenny
forcément.
Yoro, quand tu vois les noms que t'as à côté, Maguire, Lindelof, De Ligt, etc., Jones, Evans, enfin tu te dis, ouais, bah, Lenny Yoro, je vais quand même l'utiliser. Donc,
T'as
je sais
envie de
pas, je
parler
suis un
sur
peu
lui, ouais.
sceptique sur la réussite de Yoro à Manchester United. Tu vois, je prends un risque, ça se trouve, dans 6 mois, j'aurais l'air d'un con, parce qu'il aura fait 6 mois de fou. Et il sera imposé, il aura peut-être aidé Manchester United à revenir dans un cycle positif. Mais je suis assez sceptique, je suis pessimiste sur la réussite de Lenny Yoro à Manchester United. Je pense que c'est trop cher, trop de pression. Et je suis pas sûr que ce soit un crack, qui vaille ce prix-là, quoi.
Moi, je pense que c'est vraiment un super joueur et qui a énormément de potentiel, mais pareil que toi, je pense qu'à court terme, ça va être décevant.
Ouais.
Parce qu'il y a trop de choses à voir, faut qu'il revienne de sa blessure, l'adaptation à son championnat, quand même une nouvelle tactique, il y a la
Ouais.
pression de Manchester United, il y a une confiance à reconstruire aussi. Enfin, contre Bournemouth, il rate un but, alors c'est pas défensif pour le coup, mais je trouve que ça témoigne un peu d'un manque de confiance où
Ouais.
il va être pas mal dans la précipitation, etc., l'envie de bien faire. Et c'est parfois contre-productif, donc je pense qu'à court terme ça va être un peu décevant. Voilà, après, moi, c'est un joueur qui, à Lille, il a montré dans un contexte qui
Oui.
était très favorable à lui. Il a montré tellement belles choses que j'ai envie de croire en lui à long terme. Est-ce que ce sera à Manchester ou pas? Ça va dépendre des recrues qu'il y a à côté, parce que c'est clair qu'avec des Lindelof ou avec des Maguire, on va pas non plus espérer des miracles, clairement, pour lui, et il va devoir être bien accompagné.
Ok, allez, on le met dans, on attend de voir alors. On entre maintenant dans le top 3 et on commence avec Dominic Solanke, transféré de Bournemouth à Tottenham pour 64,3 millions d'euros et je crois qu'il y a quelques bonus inclus. Je précise, j'ai pris des prix Transfermarkt, c'est toujours compliqué de savoir la vraie valeur entre les
Ouais,
bonus
c'est
qu'on
ça.
connaît, les bonus qu'on connaît pas. Mais sur le papier, c'est 65 millions d'euros. Tu l'as placé où, Solanke?
Solanke, bah clairement il délivre énormément. Je pense que c'est quand même une satisfaction, clairement.
Ah, j'étais sûr qu'on ne serait pas d'accord sur lui, tu vois. T'es sûr que ce serait le
Bah,
nom sur lequel on ne serait pas d'accord?
mais moi je pense que je vois ce que tu vas dire et c'est un joueur qui a été payé très cher quand même, hein, 65 millions d'euros, 27 ans, c'est un profil quand même particulier de finisseur, etc. C'est pas évident de classer de base, mais voilà, il a 6 buts, 3 passes décisives. Il a été décisif contre Manchester United, contre City, contre Chelsea, contre Liverpool. Même si Liverpool, forcément, c'est dans une énorme défaite, un truc un peu compliqué pour lui collectivement. Et je trouve qu'il se déplace plutôt bien, que clairement, il s'est adapté très rapidement, qu'avec Kulusevski, ça se passe plutôt bien aussi. Il a pas mal d'occasions. Après, voilà, si je peux donner des bémols sur lui, je trouve que défensivement, il se fout pas. Franchement, il pourrait beaucoup plus aider son équipe. Il est dans un collectif en plus qui en a besoin. Donc, il pourrait faire mieux. Et je trouve que si on regarde ses expected goals, il n'est pas non plus ultra performant. Il est un peu en dessous de ses expected goals même. Donc, il pourrait faire encore mieux. Mais voilà, je trouve, je ne sais pas où tu veux le mettre, mais en tout cas, de le mettre dans déception, ça me paraîtrait compliqué.
Moi, je l'ai
Voilà,
mis
mais
dans
j'attends tes
déception.
arguments.
Je l'ai mis
Ok,
dans
vas-y,
déception,
j'écoute.
tout simplement parce que je trouve que c'est ultra surpayé. Alors, on sait, c'est un attaquant anglais, nanana, mais pour moi, Solanke, jamais de la vie, ça vaut 65 millions d'euros. Et je trouve que Tottenham aurait pu aller chercher des profils bien, bien différents de lui, qui auraient sûrement beaucoup plus apporté pour un prix quasi similaire. Et oui, le problème, en fait, tu me dis, tu le payes 65 millions d'euros, c'est un attaquant anglais de 23 ans et tout, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Le problème, c'est que le mec a déjà 27 ans, donc il est à son prime, tu sais que tu le revendras pas plus cher que ce que tu l'as acheté, et surtout, je trouve que l'apport, il est pas assez important, quoi. Moi, tu me dis, chez Tottenham, je recrute un buteur 65 millions d'euros de 27 ans, bah le mec, on est à la mi-saison, il peut pas être à seulement 6 buts, quoi, c'est pas possible. Un mec comme Solanke, mi-saison, pour le prix pour lequel il est payé dans un collectif comme Tottenham, c'est au moins 10 buts, et je pense que je suis gentil. Et quand on voit les performances de Tottenham, bah, je suis désolé, mais il pèse pas assez, quoi. Enfin,
Ça, c'est le.
je le
Ouais,
trouve
je trouve que
trop
c'est le
mid, en fait. Je le
défaut.
trouve trop mid pour le prix pour lequel il a été payé, quoi.
Non, je comprends. Clairement, moi, quand j'ai vu le transfert, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Clairement, je comprends pas le prix. Je sais pas s'il y a le but d'en faire un
Et
nouveau Harry Kane.
en plus, quand tu vois les performances de Bournemouth cette saison sans lui, tu te dis, bah, au final, est-ce qu'il était vraiment indispensable à Bournemouth? Il est parti, je sais plus s'ils sont encore top 5 de première ligue, mais en tout cas, il faut un très bon début de saison, Bournemouth. Donc tu te dis, il était peut-être pas si indispensable que ça, en fait. Est-ce qu'il n'a pas plus bénéficié du collectif pour avoir des bonnes stats plutôt que vraiment eu une incidence majeure sur les performances de Bournemouth. Donc ouais, pour moi c'est
Ouais.
déception parce que tu vois, tu m'aurais dit bon, il est à 12 buts, 12 buts à mi-saison, je t'aurais dit bah écoute, il a été payé cher, il a mis 12 buts, il a pesé sur les rencontres, il n'y a pas de problème. Mais le mec a été payé 65 millions d'euros, il a mis que 6 buts dans les matchs. Je trouve qu'il traverse les matchs de manière quand même bien transparente. S'il marque pas, tu te demandes s'il a joué, quoi. Donc
Ouais,
ouais,
mais
pour moi ça
c'est
part en déception. On va sûrement le mettre en attente de voir parce qu'on va trancher, on va le mettre au milieu entre nous deux, quoi. Mais ouais, après voilà, je suis peut-être un peu sévère parce que j'ai le prisme du prix depuis 6 mois et j'ai un avis très arrêté sur Dominic Solanke, mais j'espère qu'il va me faire mentir en seconde partie de saison. Mais en tout cas, s'il reste sur un standard comme ça, potentiellement fin de saison, il a mis 12 buts, quoi. Un
Ouais, mais
attaquant
tu
qui
vois,
met
si on
12
reprend
buts en
ce...
PL pour 65 millions d'euros,
Ah, si
à
on double ses stats
Tottenham.
et qu'il finit... Si on double ses stats et qu'il finit à 12 buts, 6 passes décisives, c'est pas non plus une mauvaise saison. Enfin, honnêtement, je
Bah,
trouve que ça...
Tottenham pour 65 millions d'euros, je trouve que c'est pas ouf,
Bah,
quoi.
c'est parce qu'il souffre de plein de comparaisons, tu vois. Il dit Tottenham, forcément, on pense à Harry Kane. Et puis, il y a aussi un truc avec Solanke, c'est que... Bah, effectivement, c'est le genre de profil un peu, tu vois, qui pèse pas énormément. Et moi, c'est ce que je lui reproche. Mais si tu le compares à des mecs comme Haaland qui effectivement délivre énormément, c'est un peu des profils où ben faut qu'ils marquent, sinon on les voit pas forcément.
Ah oui.
Là où je trouve qu'il est intéressant, c'est quand même, tu vois, il arrive dans un nouveau contexte malgré tout, même s'il a 27 ans effectivement. Tottenham, je trouve, le paye trop cher. Mais ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, je trouve qu'il est quand même, lui, individuellement assez satisfaisant parce que contre des grosses équipes, il a quand même marqué des buts. Et je trouve qu'il remplit son rôle, il pourrait faire un peu mieux, comme je t'ai dit, sur les expected goals. Je trouve qu'il surperforme vraiment pas, et là-dessus, c'est aussi un petit bémol. De là, le mettre dans déception, je serais peut-être pas d'accord. Donc voilà, on peut
On va
couper
le
la
mettre dans
peau en
en attente
deux.
de voir. Le déception est peut-être sévère, je suis d'accord. C'était plus histoire de déclencher un débat, peut-être, mais on va le mettre dans
Ouais,
en attente de voir. Mais
et
bon,
puis
moi, en
genre,
fait, il y a deux critères, c'est le prix et l'âge, tu vois. Il est trop
ouais, je suis
vieux pour être
d'accord
payé
avec
ce
toi, et
prix-là.
c'est pour ça que ça me va bien aussi en attente de voir, parce qu'en fait, finalement, on peut très bien, en fait, il suffit qu'il rate sa seconde partie de saison ou qu'il rate un peu sa saison suivante, et là, on va se dire qu'il a vraiment été
Et
surpayé
il a un
comme on
contrat jusqu'en
pouvait
2030 en plus,
le
hein.
présager. Là, si je vois uniquement le prisme sportif actuellement, je trouve que bah, Tottenham pourrait clairement faire mieux collectivement, mais que je pense pas que Solanke soit vraiment le joueur à pointer du doigt. Je trouve que voilà, il s'est quand même
Oui,
vachement
ça je suis
bien
d'accord. Si tu dois pointer des
intégré.
joueurs à Tottenham, il y en a peut-être que tu pointes avant Solanke, ça on est d'accord. Mais on va le mettre
Voilà.
dans mon attente de voir. En commentaire,
Ok.
donnez-moi votre avis parce que je suis curieux. C'est peut-être le nom sur
Bah,
lequel il y a
pareil.
plus de débats. Jusque-là, on était plutôt d'accord. C'était plutôt limpide, les autres non. Donc curieux d'avoir votre avis sur Solanke. Dans quelle catégorie vous l'auriez mis? Ou est-ce que vous l'auriez mis satisfaction, en attente de voir et déception? Donnez-nous votre avis parce que je suis vraiment curieux d'avoir des retours là-dessus. Savoir si je suis trop sévère ou si c'est Léo qui est trop indulgent.
Ouais, je
Donc
suis
donnez
trop
vos avis là-dessus.
indulgent, c'est vrai.
En attendant, on le met dans en attente de voir. L'avant-dernier nom, c'est Julian Alvarez, transféré de Manchester City à l'Atlético Madrid pour 75 millions d'euros. Alors, bon, il y en a certains qui vont peut-être rire parce que j'ai mis Solanke en déception alors qu'il a marqué 6 buts. Mais Alvarez a marqué 5 buts en championnat et moi je le mets dans satisfaction. Si on avait tourné la vidéo il y a un mois, je l'aurais clairement mis dans on attend de voir parce que pour moi c'était trop neutre jusqu'à un mois. Mais je trouve que depuis un mois, c'est quand même beaucoup mieux. Il s'est plus imposé dans le système de jeu de Simeone. L'Atlético Madrid, ça va aussi beaucoup mieux. J'étais perplexe sur le recrutement parce qu'on sait que les joueurs offensifs à l'Atlético Madrid, bah, c'est pas forcément les joueurs qui brillent le plus. Donc pour lui, j'étais un peu sceptique de me dire, ouais, tu vas passer de Manchester City où t'es une équipe qui surdomine, où t'as beaucoup de ballons, où tu peux briller offensivement à l'Atlético Madrid où on va te demander surtout de courir et de prier le Cholismo avant chaque match. Et finalement, bah, ça fonctionne assez bien avec Griezmann. Je trouve que c'est quand même deux joueurs qui parlent football, donc c'est quand même pas mal utile dans un
C'est bon de voir.
collectif. Donc moi, je le mets en satisfaction, notamment parce qu'il y a très peu de satisfaction et que c'est peut-être l'une des plus grosses satisfactions du mercato. C'est payé très cher, mais bon, tu parles d'un attaquant qui a 24 ans, qui est régulièrement titulaire avec l'Argentine. Et là où la petite différence avec Solanke, c'est quand même qu'il a été décisif en Ligue des Champions, quoi. Il est déjà à 4 buts marqués en Ligue des Champions.
Ouais, ça c'est pas.
C'est pas mal de ce côté-là, mais j'aimerais savoir toi où tu l'aurais mis, Alvarez. Est-ce que j'ai été trop gentil?
Non, non, pour moi, c'est pas une déception, clairement. Effectivement, le début de saison, il était difficile pour Alvarez. Après, clairement, moi, j'ai pas envie d'être trop difficile avec lui. Je dirais que j'aurais pu le mettre en attente de voir, mais ça, c'est le côté un peu neutral de se dire qu'en fait, on est qu'au mercato hivernal. Donc, juger sur 6 mois, là, on est un peu dans un format un peu spectacle, mais dans la véracité des faits, on peut attendre sur certains profils, effectivement, de voir un peu plus parce que parfois, on est trop difficile avec les joueurs. Son premier mois, il est très compliqué. Moi, je me souviens qu'on se disait à gros fleuve, etc., machin, sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, l'adaptation est bien meilleure. Je trouve qu'il est de plus en plus décisif. Et je
Ouais, puis en
trouve qu'on
plus au
voit
début il y avait une
vraiment.
rotation bizarre avec Griezmann ou Sorloth, où on sentait
Ouais, il
que
y a un
Simeone
rythme à
cherchait, tu
trouver.
vois. Je pense que Simeone, dans l'histoire de l'Atlético Madrid, il a quand même eu rarement l'occasion d'avoir trois offensives comme Griezmann, Sorloth et Alvarez de ce niveau-là. Donc on sentait qu'il cherchait un peu, il n'osait pas aligner les trois ensemble, tu vois, peut-être trop offensif pour lui. Et là, il semble avoir trouvé le rythme avec plutôt un duo Alvarez-Griezmann sur les matchs importants et Sorloth qui rentre en
Ouais,
fin de
effectivement.
rencontre. Donc je pense qu'Alvarez, ça l'a aussi aidé d'être confirmé un peu titulaire et d'enchaîner les matchs là où au début de saison, ça tournait régulièrement. Une fois il jouait avec Sorloth, une fois avec Griezmann, une fois il jouait pas. C'était un peu bizarre, quoi.
Après, moi, je trouve quand même que c'est très cher payé. Hein.
Tu
Enfin, c'est un joueur
trouves?
qui... Bah, c'est un joueur qui vaut cher, mais moi, je trouve quand même assez cher. Enfin, en fait, je trouve que j'attends de voir, et je suis plutôt positif pour lui, pour l'Atlético là actuellement, mais c'est le prix d'un joueur qui doit absolument être le leader de son équipe ou le co-leader. Et pour l'instant, il n'enchaîne pas non plus vraiment les performances décisives. C'est-à-dire que là, sur les trois
Après,
derniers
tu vois, on
matchs.
le connaît Alvarez, je pense pas que ce soit un mec qui aura des statistiques qui va mettre 15 buts, 10 passes décisives dans la saison en championnat, tu vois. C'est un mec,
C'est ça
surtout en
que.
plus quand tu combines avec un Sorloth à côté, avec un Griezmann qui prend les coups de pied arrêtés et
Ouais,
tout.
je suis d'accord.
C'est plus un playmaker dans le cœur du jeu. Mais je sais pas si c'est cher, parce qu'au final, Alvarez, il a que 24 ans, il sera titulaire avec l'Argentine quand Messi va prendre sa retraite, etc. Il a déjà 42 sélections et 11 buts avec l'Argentine à 24 ans. Hein. Donc je me dis, enfin, le mec, t'arriveras à le revendre facilement, tu feras pas une... tu vas pas le revendre 30 millions l'année prochaine ou dans 2 ans si ça le fait pas, tu vois. C'est un mec avec un
Oui, c'est
talent
sûr.
certain, ça t'apporte quand même une plus-value importante à l'effectif. Je pense qu'il aura le rôle de remplacer Griezmann quand Griezmann va partir ou va être transféré parce que Griezmann est plus proche de la fin que du début, donc je pense qu'il aura cette lourde tâche de remplacer Griezmann. Donc tu vois, on compare avec un genre, j'y reviens, on compare avec un Solanke, tu vois, je trouve pas le prix aberrant par rapport au prix, au potentiel, au rôle qu'il peut avoir dans les médias.
Je trouve que les joueurs ont que 3 ans de différence après hein, le prix. Ça reste, je sais plus, il est à combien exactement? C'est 75 millions, c'est ça?
Ouais.
Ouais, effectivement, Alvarez, c'est un joueur qui est assez complet, qui a, pareil, j'aime bien utiliser ce mot, mais qui se fond dans un collectif. Et qui clairement arrive à très bien jouer avec un Griezmann, effectivement, qui clairement, lui, est décisif. Mais voilà, le prix est quand même élevé. Moi, j'en
Le
attends un
prix est
peu plus
élevé.
à la passe. Tu vois, juste d'être un petit peu décisif, c'est vrai que souvent l'Atlético ça gagne d'un but
Oui.
récemment,
Après, c'est
potentiellement contre
l'Atlético, hein, de toute
Getafe,
façon.
etc. C'est l'Atlético, effectivement, c'est un joueur qui je trouve convient du coup bien à Simeone.
Bah, je trouve, oui, il a la Grinta. Après, c'est un Argentin, donc voilà, on connaît les
C'est
Argentins,
facile à dire, facile à dire.
mais oui, je trouve que c'est un mec qui fit. En fait, c'est un mec qui va. Tu vois, c'est déjà un mec qui va pas faire de bruit, Alvarez. Tu vois, il a. Pendant longtemps, il a été le backup à City d'Haaland, il a quand même eu un rôle assez ingrat, il a eu très peu de temps de jeu, et franchement, il a jamais fait de bruit, tu vois, il s'est jamais plaint. Là, au moment où il a senti qu'il avait moins de temps de jeu, il a demandé à partir, et City a accepté qu'il parte contre un beau chèque. Donc je trouve que c'est un mec dans un collectif qui est important, en plus, parce qu'il t'apporte pas de négativité, même quand il joue un peu moins, il va cravacher, il va essayer de revenir, de s'arracher, donc je
Ouais,
trouve que c'est
ça, je suis
intéressant.
d'accord.
Donc je le mets dans cette
D'accord, donc
situation
voilà.
pour ça.
Ok, moi j'avoue que j'en attends un peu plus et je suis pas. Tu vois, je me pose des questions encore, donc c'est que je suis un petit peu dubitatif, entre guillemets, que j'attends de voir. Mais si tu veux le mettre dans satisfaction, écoute,
Bah, tu vois, on a
vas-y,
pour
hein,
l'instant, on
fais-le.
a
Hein.
quatre noms en satisfaction, Rüter, Doué, Onana, João Neves. C'est peut-être le mec que je mets le plus bas dans la hiérarchie des satisfactions avec
Moi,
Rüter,
je le
quoi.
mettrais clairement au plus bas, effectivement.
Voilà.
Peut-être avec un Rüter, on peut se
Voilà,
poser
on
des
est d'accord
questions, mais
là-dessus.
voilà.
Allez, bah vas-y, on le met là alors. Et on termine bien évidemment avec le Kicks. Kylian Mbappé, transféré libre du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Bon, je l'ai mis dans stop parce qu'il a été transféré libre, mais je pense qu'en termes de prime à la signature, c'est peut-être l'un des transferts les plus chers de la liste. Et quoi qu'il arrive, c'est peut-être le transfert le plus important de 2024. Donc on était obligé d'en dire un mot, même s'il y a déjà eu beaucoup de débats sur Mbappé dans les médias. Tu l'as mis où, Mbappé?
Moi, je pense que je vais peut-être te surprendre, mais je suis pas sûr de le mettre dans déception. Moi, je le mets en attente de voir. Ça, je pense que ça va susciter des débats dans les commentaires. Dites-nous où vous le placez, le Mbappé, parce que voilà, pour moi, le petit kick, c'est quand même un joueur qui est excellent et qui clairement souffre d'un manque de confiance, de compétitivité, je sais pas, d'un manque de tout récemment. Hein, on va pas se mentir. Sur le jeu, dans le jeu notamment, il a du mal à être impactant, sauf sur le dernier mois où ça va un petit peu mieux. Il le dit
Ouais.
en interview que depuis Bilbao, voilà, il a remis les pendules à l'heure, et ça lui a fait une sorte de petit électrochoc. Et Ancelotti a confié qu'il était prêt maintenant et que sa phase d'adaptation était terminée. Je trouve que effectivement on le voit. Après, voilà, Mbappé, c'est vrai que c'est tellement compliqué comme dossier parce qu'il arrive dans un Real qui vient de gagner avec des champions, même si voilà le niveau de jeu montré peut en faire parler certains. En tout cas, il y a une vraie synergie à trouver, notamment avec un Bellingham qui a complètement changé de rôle par rapport à l'année dernière et qui on sent un peu plus de mal à se situer. Et puis il faut essayer de faire synergiser avec Vinicius, c'est plus difficile. Voilà, néanmoins, il a été décisif, il a des occasions et je trouve qu'il est sur une pente vraiment ascendante. Et malgré le fait que effectivement la prime de la signature est peut-être importante, ça reste un joueur qui a coûtait certainement moins cher que ce qu'il aurait pu coûter s'il n'était pas en fin de contrat, clairement. Ça reste une bonne affaire pour le Real Madrid et c'est un joueur qui va regagner de la valeur. Donc voilà, moi je le mettrais dans on attend de voir. Je comprends qu'on prenne une décision à se dire satisfaction, déception. Pour moi, on ne peut pas le mettre dans satisfaction. Je comprends qu'on le mette dans déception. La vérité, c'est que je pense que, pareil, sur un prisme plus long terme, il va, je pense, un petit peu élever son niveau de jeu, et dans ce cas-là, j'ai envie de voir ça et je n'ai pas envie d'être trop difficile non plus.
Ouais, moi je l'ai mis dans déception parce que oui, c'est peut-être une affaire financière parce qu'il arrive libre, mais je pense que c'est pas une affaire sportive parce que j'en avais parlé en stream avant qu'il signe au Real Madrid. Je pense que le Real Madrid n'avait pas besoin de lui en fait. Je pense que c'est un transfert marketing, parce qu'on sait que le Real Madrid aime bien ces transferts-là. Mais je pense que le Real Madrid n'avait pas besoin d'un profil comme Kylian Mbappé. Le Real Madrid avait bien plus besoin d'un profil de pur numéro 9 pour remplacer
Ouais,
un
je suis pas
José
sûr,
Lu et avoir
je suis
du
plus d'accord.
Rodrigo, du Vinicius qui tournent autour de tout ça. Alors oui, il va marquer parce que c'est Mbappé, parce que c'est le Real Madrid, et forcément, quand t'es Mbappé au Real Madrid, tu vas marquer des buts, ça, y a pas de doute, il va pas finir la saison à 3 buts marqués, ça risque pas. Mais en termes de sportif, on le voit depuis le début de saison, hein, ça a quand même du mal en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué, en championnat, bon, ça enchaîne,
C'est
mais on connaît la
possible, c'est
Liga.
possible.
Ouais, pour moi, c'est déception parce que je pense que le Real Madrid n'avait pas besoin de lui et je pense que, en plus, après toutes les années où le Real Madrid a brillé, c'est un énorme risque pour lui parce que si cette saison le Real Madrid gagne rien du tout ou gagne peut-être juste la Liga, les critiques vont être vives et vont être en mode, le Real Madrid avant Mbappé ça tournait bien et maintenant que Mbappé est là, ça tourne un peu moins bien. Donc, c'était un gros risque pris de sa part. Après, oui, c'est le club dans lequel il rêvait de jouer, ça on le sait bien. Mais ouais, pour moi, t'es obligé de le mettre dans déception pour l'instant. C'est pas non plus dramatique comme certains peuvent le faire croire. On dirait
Non, c'est vraiment
qu'il
pas
est nul, il
dramatique
touche
non
plus un
plus, hein.
ballon. Le problème, c'est que dès qu'il rate une action, tout le monde se fout de sa gueule et dès qu'il réussit quelque chose, ça, on en parle beaucoup moins. Donc, c'est très compliqué. C'est devenu très compliqué de parler d'Mbappé de manière objective. Mais voilà, je peux pas le mettre dans mon attente de voir parce que c'est Mbappé et Mbappé, quand t'arrives dans un club comme le Real Madrid, t'es obligé d'avoir un impact immédiat et si t'as pas
T'as
cet
des
impact
attentes qui sont,
immédiat, c'est
ouais.
décevant, quoi.
Ouais, je comprends, honnêtement, je comprends vraiment. Moi, c'est vrai qu'Mbappé, en fait, j'ai envie de le. Vraiment de le voir dans un prisme collectif, encore une fois, parce qu'il y a vraiment, là pour le coup, c'est au niveau de l'organisation tactique, il y a énormément à revoir, et ça aurait effectivement été beaucoup plus simple, je pense, de prendre un profil de pur neuf, de finisseur, qui clairement manquait, voilà, t'avais Vinicius, t'as Rodrigo, en vrai, t'as recruté Endrick, t'aurais pu te dire, ok, j'essaie d'installer Endrick à ce poste-là, peut-être avec quelqu'un d'autre pour lui faire concurrence d'un peu plus expérimenté, parce qu'on est quand même au Real Madrid, on a ce standing-là, on veut performer directement. Après, les critiques sont déjà tellement vives sur Mbappé que, en fait, je pense que si ça se passe mal, il sera critiqué, mais si ça se passe pas parfaitement bien, il sera quand même critiqué.
Oui.
Donc voilà, moi j'ai juste envie de tempérer un petit peu parce que je trouve qu'on est très 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 dur avec lui. Et en même temps, il a tellement parlé dans les médias où il a tellement fait parler de lui avec ses histoires avec le PSG que c'est un petit peu le jeu.
Ouais.
Voilà, dans tous les cas, j'attends de voir. Je comprends qu'on le mette en déception, c'est décevant dans le sens où. Clairement, on sent qu'il a désorganisé le jeu du Real Madrid et que niveau résultat collectif, en Liga, voilà, le Real doit être premier, entre guillemets, ou être vraiment à la lutte. Et là, bon, c'est pas forcément le cas, donc je comprends.
Vas-y, on le met dans déception. Bon, je te propose de faire un bilan sur la tier list, du coup, maintenant qu'on a terminé. Donc, dans meilleur
Ouais.
transfert, on a Olise. Dans les satisfactions, on a Désiré Doué, Amadou Onana, João Neves, Jorginho Rutter et Julian Alvarez. On a un gros groupe de joueurs dont on attend de voir. On a 4 déceptions
Forcément.
avec Mbappé, De Ligt, Kilman et Palinha. Et enfin, notre pire transfert qui est João Félix. Je trouve que la tier list est plutôt cohérente. C'est ce que j'avais mis moi globalement. Donc je trouve que c'est plutôt cohérent. Et on voit quand même que les transferts un peu positifs, pour des sommes qui allaient tout au-dessus de 45 millions d'euros, pour l'instant, il y a quand même très peu de transferts où tu te dis, ouais, le prix, c'était le prix, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est toujours le côté bulle spéculative du football, où effectivement, tu as des joueurs qui sont clairement surpayés. En plus, on a pas mal parlé de transferts autour de la première ligue, où je
Oui,
peux effectivement te dire
forcément,
que là, les joueurs, clairement, on aurait pu faire de meilleures affaires. Moi, je trouve que la tier list est cohérente. Et dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'on est quand même après 6 mois pour la plupart de ces joueurs.
oui.
Et moi, c'est vrai que j'ai cette attitude un petit peu aussi de. Pas attentiste, mais voilà, de me dire,
Oui,
ok,
non, mais
c'est
c'est
vrai qu'il y a quand même
important.
un temps d'adaptation,
C'est
tactiquement, il
clair.
faut trouver sa place. Il y a pas mal de joueurs qui, dans la tier list aussi, ont été blessés, ont eu
Oui.
des pépins physiques, ou alors ont subi un changement de coach, etc. Donc, voilà, forcément, faut pas être non plus dans ce spectacle à dire, ah ouais, lui, c'est vraiment un transfert de merde, lui,
Oui,
c'est
le
un
but, c'est pas
transfert
de clouer au
incroyable. Voilà,
pilori
il
les joueurs
faut
ou quoi que ce soit,
rester
évidemment. Jamais.
effectivement assez nuancé. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. Moi, vraiment, gros point positif sur Olise, encore une fois. Le joueur est le futur, je pense, de l'équipe de France aussi, donc je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus.
Écoutez, nous on a fait notre tier list, maintenant dans les commentaires, c'est à vous. Alors mettez peut-être pas tous les
Ouais.
noms, mais donnez-nous votre meilleur transfert et votre pire transfert et deux, trois satisfactions et déceptions. ça vous intéresse, je suis curieux d'avoir votre retour, même si je pense que les meilleurs transferts et les pires transferts, il n'y a pas beaucoup de choix disponibles autres que ceux qu'on a évoqués. Mais voilà, donnez-nous votre avis dans les commentaires, c'est important. Moi, j'essaie vraiment de lire tous les commentaires et de répondre à tout le monde. Donc, allez-y, n'ayez pas peur de vous exprimer. C'est quand même toujours très intéressant. Et merci beaucoup, Léo, de m'avoir accompagné pour cette petite tier list.
Pas de soucis,
C'était
c'était très
bien
cool,
sympa.
merci à toi. Ouais, merci à toi de l'invitation, c'est vraiment cool de pouvoir faire ce genre de format, merci.
Eh ben écoute, on se retrouve à plus d'une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Allez,
Bye.
ciao l'équipe.